De retour à Allo Showbiz sur les ondes de CJSO, de la belle visite. Aujourd'hui, première fois à l'émission, Jordan Officer.
Cool. Salut, salut Luc. Ça va bien, toi?
Ça va très bien. Nouvel album. Oui. Quatrième album solo, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Idée qui est partie d'un road trip.
Oui, ben quand j'étais en composition pour l'album, j'ai fait plusieurs road trips dans le sud des États-Unis, donc ils m'ont beaucoup influencé dans la conception, dans le style, dans les influences, dans l'écriture. Et ce qui m'avait vraiment touché et influencé dans ces voyages, c'est que j'allais dans des endroits comme le Texas, Mississippi, Louisiane, d'où vient beaucoup de ces styles de musique que je joue depuis toujours, que ce soit le jazz, le blues, le country, western swing, tout ça. Et c'est des endroits que je n'avais pas encore visités.
OK.
Je me suis promené dans le sud des États-Unis. J'ai déjà eu des spectacles en Tennessee, un peu autour, mais jamais au Texas, New Orleans. C'était des endroits que je voyais pour la première fois.
Et est-ce que ça change beaucoup de choses? Parce que là, on le voit concrètement.
Oui.
D'où est née cette musique-là?
Pour moi, ça a changé quelque chose parce que... Surtout quand... On dirait que quand tu as une relation intime avec la musique qui vient de, par exemple, la Nouvelle-Orléans, et il y a tellement de musique qui vient de New Orleans, c'est fou pour quand même une petite ville. Depuis le début du jazz, puis le R&B, Mahalia Jackson, le gospel, même le hip-hop qui est très particulier, ce qui vient de New Orleans. Mais tu as une image, tu te construis une image de c'est quoi la ville, c'est quoi l'ambiance et tout ça, mais c'est vraiment ta propre invention de ce que c'est.
Oui.
Et une fois que tu es sur place, ben là, tu le comprends, et c'est pas juste de le voir, c'est les odeurs, c'est le rythme de vie, c'est les accents, c'est des choses très viscérales, en fait, que j'ai trouvé qui m'affectaient beaucoup. Et être dans ces endroits, dans le nord du Mississippi, d'où vient Robert Johnson et Muddy Waters et tout ça, au Texas, tous ces styles de musique que j'ai toujours eu une relation très proche avec ces styles de musique, mais je les réécoute comme si c'était pour la première fois.
Est-ce qu'on va visiter des endroits marquants de la musique quand on va là-bas?
Est-ce qu'on va dans
des studios? Est-ce qu'on va, je ne sais pas s'il y a les maisons de certains artistes qui sont accessibles. Est-ce qu'on fait le tour comme ça?
Oui. Des fois, c'était même par accident que tu te rends compte, « Oh, attends une minute, on est dans tel village. » Il me semble que Robert Nighthawk, qui vient ici, tu fais une petite recherche, c'est pratique, mais à ce temps-là,
les téléphones
pour ça. Puis là, tu fais une petite recherche, puis c'est la rue qui était juste là, à ta droite, puis wow. Donc, il y avait ça, voir des... Là où Muddy Waters a grandi, le village où il a grandi, aussi là où il travaillait sur les champs de coton quand il était jeune homme et quand il a été découvert pour la première fois et enregistré pour la première fois, c'était sur le Stovall Plantation dans le coin de Clarksdale. Okay. Et c'est là qu'on a pris les photos qui sont sur la pochette de l'album. C'est quand j'ai sorti ma guitare et je jouais des pièces de Muddy Waters, là où lui les aurait joués lui-même en entendant l'acoustique de l'endroit, pareil que lui l'aurait entendu. On se sent un peu comme si on était à l'église, qu'il y a comme une révérence pour l'endroit, l'historique. Et aussi, en se promenant dans le sud des États-Unis, je sens toujours un contact avec l'histoire quand même pas très lointaine de l'esclavage, de le Civil Rights Movement, le combat pour les droits civils, tout ça. Et c'est des questions qui sont encore pas réglées et c'est très palpable. Et en même temps, c'est des sociétés quand même très mixtes, beaucoup plus mixtes en noir et blanc qu'on voit dans le nord du pays même. Mais il y a cette historique très chargée. Et la musique gospel a toujours eu un rôle très important dans ce combat pour les droits civils, l'Église, les chanteurs comme Mahalia Jackson, qui était une amie de Martin Luther King. Donc, tout le côté gospel aussi, j'en écoutais beaucoup pendant ces années, pendant ces voyages, et ça a beaucoup influencé l'album aussi.
Et d'ailleurs, il y en a sur l'album.
De la musique gospel.
Il y a un peu de gospel sur l'album, ce qui n'était pas tant exploré de ton côté.
C'est la première fois dans ma musique qu'il y a vraiment une influence... Euh, concrète, là, comme de la musique gospel. J'ai toujours aimé ça, c'est sûr. J'ai toujours comme écouté des fois, mais que ça vienne vraiment me toucher, m'influencer, oui, c'est la première fois.
Est-ce que tu composais là-bas? Parce que j'ai cru voir que c'était avec la famille, ces voyages-là. Donc, est-ce qu'on écrit ou on... c'est difficile parce que les enfants sont là?
Pas tant. Je jouais, on allait voir de la musique. Des fois, j'ai eu des idées parce que quand je fais... Moi, j'aime ça conduire.
OK.
Et quand on part en camion comme ça pour le Texas, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'heures de chauffer.
Oui, ça c'est sûr.
Et il y a beaucoup d'idées qui me viennent quand je suis au volant, sur des longues distances. Donc que ce soit dans ces voyages ou même mes allers-retours à Tadoussac, parce qu'on passe beaucoup de temps à Tadoussac, d'être sur la route comme ça, c'est toujours des moments très propices pour moi d'avoir des idées, de composer, oui.
C'est Charlie Drayton qui réalise l'album, avec qui tu as déjà travaillé. Oui. Comment s'est pris la décision de retravailler avec lui et de lui qui réalise l'album aussi?
Ben, Charlie et moi, on avait vraiment connecté la première fois qu'on a travaillé ensemble, il y a 5 ans à peu près. Et on a gardé contact et on avait toujours exprimé tous les deux le désir de refaire quelque chose ensemble. Et sur cet album, je le sentais que ça serait intéressant pour moi de ne pas être mon propre réalisateur cette fois-ci. Et la première personne à qui j'ai pensé, c'est Charlie. Mais quand je lui ai proposé, j'avais aucune idée si ça l'intéresserait ou pas. Et c'est quelqu'un de très occupé, tu sais, batteur de Keith Richards pendant des années, tout un CV. Mais il était tout de suite intéressé. Je suis allé à New York avec une guitare, puis j'ai joué les chansons que j'avais commencé à travailler. Et il a dit « Oui, ça me tente ». Il était dedans. Alors, cette collaboration avec Charlie aussi, c'était un peu la raison d'être de cet album. C'était de voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, où il n'est plus juste un batteur, mais il est un collaborateur sur l'album au complet. Puis c'était super.
Est-ce que c'est flatteur qu'un artiste comme celui-là s'intéresse à notre travail?
Oui, définitivement. Oui. C'est flatteur et c'est inspirant aussi parce que même quand on n'était pas ensemble, parce que beaucoup de travail s'est fait en échange à Montréal, j'écrivais, j'ai envoyé des idées, il me renvoyait des trucs, mais tu veux toujours être à la hauteur de quelqu'un comme ça qui a accepté d'être avec toi. Donc ça donne une petite motivation supplémentaire de vraiment te dépasser, puis creuser, puis faire de quoi de beau et bien.
Est-ce que ça fait du bien de ne pas assurer la réalisation de ce disque-là, d'avoir un regard extérieur sur ce qu'on fait aussi?
Oui, définitivement. C'était la première fois depuis que j'ai cette carrière solo que j'ai un réalisateur comme ça. C'est sûr que toutes les années que je travaillais avec Susie Arioli, on avait des fois des réalisateurs, mais même quand c'était moi le réalisateur ou qu'on le réalisait ensemble, il y avait toujours l'échange entre nous deux. Et depuis que je suis en carrière solo, c'est on peut devenir un peu fou quand on est tout seul.
Ouais.
Et surtout en composition, on peut vivre des hauts et des bas assez intenses, des jours que tu rentres du studio et t'es en amour avec tout ce que t'as fait. Et d'autres jours que tu es complètement déprimé. Donc, avoir une autre personne qui fait partie de ce processus de création, ça aide beaucoup à tempérer les hauts et les bas et à te pousser aussi, à être dur des fois et à aller chercher plus. Mais oui, c'était très agréable d'être accompagné et surtout en studio à New York. Et je dirais, tout ce qui était instrumental, c'était inspirant, c'était intéressant, il amenait des idées que j'aurais pas pensé et tout ça. Mais là où je me suis senti le plus comme soutenu et que c'était comme un luxe énorme d'avoir cette personne, c'était pour les vocales. D'avoir parce que c'est tellement personnel, la voix, que d'avoir quelqu'un à qui tu fais complètement confiance, qui te guide, et que ça, c'est... En plus que juger ses propres performances vocales, c'est très difficile parce que t'es pas du tout objectif.
Non.
C'est là que j'ai senti que c'était le luxe, là, d'avoir ça.
Est-ce qu'avec le recul, tu dis que t'aurais dû faire ça avant?
Ah, ça, c'est une bonne question. Non, Ben, pas vraiment, parce que les albums précédents, je changerais rien. Ils sont parfaits dans le sens qu'ils sont le produit de leur contexte, de qui j'étais à ce moment-là et tout ça. Donc, je voudrais pas retourner en arrière et changer ce qu'ils sont comme album. Mais c'est sûr que ça m'intéresse de le faire plus. Mais il y a aussi une autre chose que j'ai fait pour la première fois sur cet album, c'est des co-écritures. Avant, je composais seul. Et il y a trois chansons sur l'album qui ont été écrites avec d'autres.
Il y a Thomas Hellman.
Oui, il y a une chanson que j'ai écrite avec Barbara Secour et Thomas Hellman. Et il y en a deux que j'ai écrites avec Matt Lipscomb. Et ça aussi, c'est intéressant d'avoir des idées de quelqu'un d'autre, les façons de travailler aussi de quelqu'un d'autre.
Comment ça se faisait, cette coécriture-là? Est-ce qu'on partait d'un thème? Est-ce que chacun écrivait des bouts de chansons? Comment ça se passait?
Avec Matt, c'était les deux fois, c'était un peu la même approche. On arrivait ensemble pour écrire. On n'avait pas vraiment de point de départ. Okay. On parlait de sujets qui nous intéressent, surtout moi, de thèmes que j'aimerais explorer dans une chanson. On commençait à avoir des idées de phrases, aller chercher des mots, des mélodies. Et les deux chansons ont été écrites en deux sessions. On quittait une session avec une chanson à peu près finie, mais peut-être qu'il manque un deuxième couplet ou quelque chose comme ça, puis on se revoyait pour la terminer. Donc c'est comme une approche. Et Matt, il écrit souvent à Nashville avec c'est ce qu'il fait dans la vie. Donc je voyais avec lui qu'on entrait dans une façon de travailler qui était intéressante, parce que moi, c'est un peu n'importe comment. Ben, n'importe ça peut partir quand, de surtout, ça ouais. Ou n'importe quand. Donc, c'était intéressant de voir une structure à comment écrire une chanson et une habitude aussi. Tandis que Felt So Good, ça a eu une évolution tellement lente où moi et Alain et Sage, mes musiciens, on a fait des sessions d'exploration instrumentale avec des beats que j'aimais. Celle-là, on s'est inspiré d'un beat d'une chanson de hip-hop de Nouvelle-Orléans, justement, mais qui ressemble un peu à un genre de Bo Diddley beat plus lent. Puis je trouvais ça intéressant et je me suis dit, ah, ça serait intéressant d'écrire une chanson. Alors, pendant longtemps, c'était un instrumental qu'on jouait live. On a fait aussi des soirées au Barfly à Montréal pour essayer des nouvelles idées. Éventuellement, j'ai travaillé avec Barbara Secour pour écrire une mélodie. Parce que elle, je trouvais, j'avais son premier album, je trouvais qu'elle avait écrit qui étaient plutôt jazz, des mélodies vraiment qui parlaient, qui avaient beaucoup d'émotions. En tout cas, j'avais un feeling qu'avec elle, on trouverait quelque chose de beau. Et vraiment, j'ai adoré la mélodie qu'on a trouvée ensemble. C'était vraiment pas du tout dans les genres de mélodies que moi, j'étais en train de trouver par moi-même. Donc, on avait la mélodie et le titre, Felt So Good. Mais pour le reste, les paroles, je n'étais pas satisfait. Alors, j'ai donné ça à mon ami Thomas Hellman, que c'est un ami du secondaire et j'adore ce que lui fait. Lui, il écrit super bien en anglais et en français. Et lui, il s'est amusé avec ça. Il m'est revenu avec une chanson, puis c'était ça. Puis c'est ça, la chanson, c'était parfait.
Quand on est teinté de plein d'univers, influencé par plein de sortes de sons, est-ce que c'est difficile de trouver une ligne directrice à un album, ou c'est pas important, une ligne directrice?
En termes de style et de langage, ben non, pas tant, mais c'est intéressant comme question, parce que je me la pose souvent. Parce que mes influences sont vraiment jazz, blues, country, rock and roll, R&B, gospel. T'sais, c'est beaucoup de styles qui ont tous quand même évolué ensemble, donc qui partagent quand même un langage, mais qui sont quand même différents. J'ai jamais eu l'impression de sauter d'un style à l'autre. Ils font partie d'un tout et de mon langage quand même personnel que j'ai toujours eu. Mais c'est vrai qu'au début de chaque projet, je vais quand même aller chercher un langage spécifique pour cet album. Donc, je vais écouter beaucoup de musique et je suis en fait dans cette étape-là en ce moment.
OK.
C'est sûr que tu écoutes toujours de la musique. Quand tu aimes la musique, tu en écoutes souvent. Mais quand il y a comme des fois une décision d'aller chercher certains styles, certains sons, ou de redécouvrir certaines musiques que tu as aimées dans le passé. Et après ça, ben, quand tu commences à jouer avec des éléments de ces styles, en tout cas moi, dans ma façon de travailler, même avant de commencer à composer des chansons, je construis un genre de langage qui va être un peu un point de départ pour l'album, et je pense que ça, ça aide pour avoir une quelque chose de consistant dans, sur toutes les chansons.
Parce que les deux écoles de pensée là-dessus, il y a ceux qui veulent pas écouter de musique pour pas être teintés par ce qu'ils entendent, et il y a ceux qui veulent se laisser inspirer, influencer par ce qu'ils écoutent avant de créer. Donc toi, c'est plus ça.
Oui, mais c'est sur cet album Three Rivers, dans les musiques que j'ai écouté beaucoup de gospel. Mais peut-être si j'étais un artiste gospel, vraiment gospel, j'aurais peut-être peur d'imiter ou
ouais,
de...
je comprends.
Mais étant donné que je savais que j'allais pas faire un album gospel et j'essayerais même pas, je voudrais pas imiter ce qu'ils font. Ou un autre style de musique que j'écoutais, c'était justement du hip-hop de Nouvelle-Orléans et la musique de Nouvelle-Orléans en général. Mais je savais qu'il y avait pas de danger que tout d'un coup je fasse un album hip-hop à la Big Boy ou je sais pas quoi.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y aurait ce danger peut-être si t'écoutais des gens
même
vraiment dans le même style que ce que tu fais. C'est aller chercher des influences dans des styles qui sont très différents, ça t'amène des... c'est bien pour sortir de tes façons de faire. On dirait qu'on peut, répéter les mêmes patterns si on ne fait pas attention. Comme le hip-hop, en fait, ce qui m'influence beaucoup là-dedans, c'est l'espace. Parce que je trouve que c'est vraiment épuré le son. Il y a beaucoup d'espace, même si ça peut fesser, puis il y a beaucoup de son puis de basse et tout ça, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup plus que comme souvent ce qu'on entendrait dans le blues, dans le rock, où c'est rempli, on sent que c'est rempli.
Oh ouais.
Et moi, j'aime ça. Donc ça m'influence, mais ce qu'on entend de moi, on ne penserait pas que c'est influencé par du hip-hop, parce que style, en termes de style, ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas le retour du violon sur ce disque-là?
Oui.
Qui était ton premier instrument?
C'est mon premier instrument, et j'avais arrêté pendant plusieurs années. Oui, c'est depuis que mes enfants ont commencé à jouer du violon que j'ai ressorti le mien. Et là, c'est la quatrième année qu'eux, ils en jouent, puis là... Sur la dernière tournée de Blue Skies, vers la fin de la tournée, je commençais à la sortir dans les spectacles. Et là, quand j'étais en composition pour Three Rivers, ça a vraiment pris une place plus importante dans le style. Et avec ces voyages, avec toutes ces... de redécouvrir ces styles qui m'ont toujours influencé, mais redécouvrir le violon aussi, c'était un lien avec mon passé, mes racines. Donc... C'est quelque chose qui fait beaucoup partie de moi, donc j'aime retrouver ça. Et dans le spectacle maintenant aussi, ça amène une autre voix, une autre texture et une autre façon de s'éclater aussi, parce que ça peut être vraiment le fun.
Pourquoi ça avait été mis de côté, le violon?
À une époque, dans ma vingtaine, à un moment donné, j'en avais joué beaucoup.
Depuis l'enfance, j'imagine, le violon, c'était depuis l'enfance?
J'en ai joué depuis l'enfance. Après ça, quand j'ai découvert la guitare et le blues, j'ai tout arrêté le reste. J'ai laissé tomber le violon. Ça, c'était quand j'avais peut-être 13, 14 ans. Et j'en ai pas joué pendant plusieurs années. Plus tard, j'étais dans un groupe cajun avec Michael Brown.
Okay.
Et lui, il m'a dit, « Ah, il me semble que tu joues du violon, on pourrait faire des twin fiddles, des deux violons ensemble.
Ouais. »
Et donc, je l'ai ressorti, puis j'ai commencé à faire ça, puis je faisais l'octave plus bas avec lui, puis ça m'a remis dedans et tranquillement, j'ai recommencé à en jouer et j'ai fait beaucoup de cajun, de bluegrass tout d'un coup, de country. Et là, je m'améliorais, j'étais excité, j'en jouais beaucoup. J'étais dans un band de bluegrass avec Andrew Horton où on avait des tempos très rapides, des tonalités. Je me poussais beaucoup et tout d'un coup, j'ai eu une blessure à l'épaule. Je pensais que c'était une tendinite, mais en tout cas, c'était plus dans le cou. Puis là, je le sentais même en jouant de la guitare, ça m'a fait peur. Alors j'ai complètement arrêté. J'ai réinventé même ma technique à la guitare.
Okay.
J'ai commencé à faire du yoga. J'ai fait plein de choses qui m'ont permis d'avoir une meilleure technique, une meilleure approche à l'instrument. Et je sais maintenant que j'aurai jamais de problème physique comme ça parce que j'ai tellement appris par cette expérience. Mais à travers tout ça, j'avais quand même laissé tomber le violon. Puis c'est vraiment dans ces dernières années que j'ai recommencé, comme je t'ai dit, depuis que mes enfants y en jouent. Mais mes antennes, là, pour si ça peut être dangereux, ils sont beaucoup plus efficaces. Ouais. Je le sais quand c'est dangereux, je sais quand je dois m'arrêter ou adapter ma posture ou ma technique.
Donc les enfants ont la même passion que papa?
En
tout cas, il y a un intérêt.
Ils ont un intérêt, ils adorent ça, c'est naturel pour eux. Je les pousse pas beaucoup, mais ils évoluent bien. Ma fille est dans un orchestre. C'est super. J'aime la sorte de relation qu'ils ont avec la musique. Ils aiment chanter, ils prennent d'autres instruments. Des fois, ils jouent avec, ils trouvent par eux-mêmes. Donc, oui, c'est super le fun.
Ce disque-là a remporté un Félix
au
dernier gala de la disque. C'est comment quand l'industrie reconnaît notre travail?
Ça fait vraiment plaisir. Ben oui, c'est flatteur. Oui. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'en avais gagné un pour le premier album. C'est incroyable. C'est... ou même juste d'être nominé. C'est vraiment une belle façon d'être félicité puis encouragé pour son travail. On met tellement de... notre vie, notre énergie, notre temps dans ce qu'on fait, que c'est juste agréable. Et c'est le dernier gala de la disque, ça a été particulièrement intense parce que je faisais une prestation aussi au gala d'une des chansons Dream of You and Me. Et la prestation était juste après la catégorie où j'étais nominé. Donc là, il faut que tu sois dans la salle. Oui. Jusque ta catégorie, parce que tu faut que tu sois là si tu gagnes. Donc, t'es pas backstage en train de te réchauffer. Alors, t'es là, j'ai gagné, c'est incroyable, j'ai accepté. Là, je sors de la scène et ils disent « OK, prends ta guitare vite ». Puis là, t'as à peine le temps de digérer ce qui se passe, puis t'es sur la scène en train de chanter. Mais c'était magique. La prestation de la chanson était comme une célébration de cette reconnaissance que je venais de recevoir. C'était incroyable.
Et est-ce que c'est stressant jouer devant ce parterre-là de musiciens? Parce que dans la salle, il y a la moitié de la salle, ce sont des musiciens.
Oui.
Est-ce que c'est plus angoissant ou pas?
Non, j'ai pas senti ça. Je pense que ça... Non, j'ai pas senti ça.
Tant mieux!
Non, j'ai quand même une confiance en ce que je fais et tout ça. Et on avait... J'étais tellement bien accompagné par les musiciens qui étaient le house band pour le gala. Ils étaient incroyables et on s'est vraiment... On avait refait l'arrangement pour Dream of You and Me pour que ça se termine en guitar boogie puis que je vienne en avant puis que je fasse la split en faisant le truc. Puis on s'est fait du fun. Alors non, j'étais pas inquiet. Je savais que ça allait être cool.
Il y a 20 ans cette année, tu montais sur scène au Festival de jazz de Montréal avec Suzy Arioli. Et ce spectacle-là a suscité énormément de réactions en 1998. Ça a été comme le coup d'envoi.
Oui, ça a été vraiment le début de notre carrière. On jouait dans des petits bars, là, des petits clubs de jazz avant ça. Et j'avais envoyé une cassette au Festival de jazz. Ils l'ont écouté. Ils nous ont donné une scène extérieure. Un vendredi soir, c'était... magnifique. Il n'y avait plus pendant quelques soirs, puis là, il faisait beau ce soir-là. Alors, l'ambiance était incroyable, c'était plein. Puis ça avait été... Déjà, ça avait été magique. Le lendemain matin, on nous a appelés pour dire est-ce qu'on ferait la première partie de Ray Charles à Place des Arts. Et évidemment, on a dit oui.
Oui.
Et c'est là que tout le monde, les critiques étaient là pour faire la critique du show de Ray Charles. Tout le monde a parlé de notre première partie. Donc après ça, il y avait une attente pour un premier album. On l'a fait. Tout s'est passé comme à partir de ce moment-là. Et c'est comme si ça, après ça, tout s'est passé tout seul.
À quel moment on réalise que c'est vraiment parti, là, que ça se passe bien maintenant? Parce que dès le lendemain, quand on lit les critiques, on comprend que... ça va changer.
Oui, on comprenait qu'il se passait quelque chose. Et après ça, je sais pas, on dirait que dans ma vingtaine, je le réalisais, mais je le réalisais même pas en même temps. On était un peu... On était jeunes, tu sais. Je m'en rendais compte qu'on était chanceux puis que ça se passait bien. Mais on était pas mal dans le moment présent. Ah oui, on part en Europe, cool. T'sais, on fait le festival Django Reinhardt, wow, c'est le fun. Mais c'est vraiment plus à l'âge que j'ai maintenant que je me rends compte à quel point c'est fou. Juste de venir à Sorel puis avoir la salle pleine de gens qui ont acheté des billets, qui se sont pris une gardienne ou whatever, qui une équipe pour te soutenir dans vivre ce moment, c'est... Mm-hmm. Pour moi, c'est un succès incroyable. Et c'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. Donc, je m'en rends tellement plus compte maintenant que quand j'étais plus jeune.
C'est un privilège quand les jeunes choisissent dans toute l'offre
c'est incroyable.
Qu'il y a en frais de spectacle. Et aussi le fait que beaucoup de jeunes ne sortent plus parce qu'ils ont accès à tout à partir de la maison maintenant. Donc, quand ils décident que cette soirée-là, c'est un Jordan Officer qui l'accorde, c'est un cadeau.
Je suis tellement reconnaissant. Oui.
Comment on fait le choix des pièces pour la tournée? Parce qu'évidemment, on veut jouer tout cet album-là, mais il y a quatre albums solo.
Ben, c'est
sûr
que...
On peut aller piger des trucs qui nous influencent, dans tout ce qu'on a parlé tout à l'heure du sud des États-Unis. On peut aller piger dans ce répertoire-là.
Mais on fait un peu de tout ça. C'est sûr que dans une tournée pour un nouvel album, on fait beaucoup du nouvel album. On va toujours choisir des chansons qu'on aime d'un peu partout. On sort le violon, il y a le lap steel aussi dans le spectacle. Il y a des chansons, tout le côté gospel New Orleans nous permet de jouer avec des rythmes différents que ce qu'on avait avant. On se fait du fun, on fait ce qu'on a envie de faire. C'est pour ça que c'est incroyable qu'il y ait des gens qui sont là pour vivre ça avec nous, parce qu'on fait tout à notre goût.
Et ça plaît à d'autres.
Puis en plus, c'est comme... on fait la fête ensemble. C'est magnifique. Donc, il y a des chansons de certains autres albums. Il y a des nouvelles chansons. Il y a des covers. On va faire un Bo Diddley. On va faire des chansons de violon, de Kentucky and Louisiana. Puis tout ça. It's all fun.
Et il y a déjà de la composition pour un prochain projet?
Ça commence. Les débuts des idées, les influences. En ce moment, je réécoute des vieux 78 tours que j'avais écoutés quand j'étais à McGill en jazz.
Okay.
À la bibliothèque de la faculté de musique, il y avait tout un coin de 78 tours qui n'était pas répertorié. C'était juste comme un genre de tas dans le coin. Mais je pense qu'ils s'étaient fait donner des collections, il n'y avait pas vraiment le budget ou le temps pour s'en occuper. Mais j'avais fouillé là-dedans. Puis ils avaient des tourne-disques avec des lecteurs de cassettes que tu pouvais mettre une cassette puis enregistrer les disques. Donc, je mettais des 78 tours, souvent juste au pif. Je ne connaissais pas le titre. Je le mettais puis j'enregistrais. Si vraiment je n'aimais pas, je reculais puis j'en mettais un autre. Mais en général, je laissais le hasard un peu décider, puis j'ai encore une douzaine ou moins de cassettes comme
de
ça.
De ces disques-là, OK.
Ça peut être country, pop, big band, classique, un peu de tout. Ce qu'on retrouve dans une collection de 78 tours de quelqu'un qui aurait acheté ça dans les années 30 ou 40 ou 50, c'est assez varié comme style. Des fois, c'est une chanson sur un orgue, des fois c'est très square, t'sais, très cheesy, ou d'autres fois c'est des affaires incroyables que tu comprends pas comment ça se fait que tu connaissais pas ça. Là. Et de réécouter tout ça en ce moment, ça me fait beaucoup plaisir parce que ce sont des enregistrements que j'avais beaucoup écoutés à l'époque, qui m'ont quand même formé dans ce que je suis comme musicien aussi. Donc, c'est un genre une autre sorte de retour aux sources que je vis en ce moment.
Et là, les prochains mois, on a parlé de la tournée. Donc, si on veut suivre les dates de show,
les dates sont toujours sur le site web jordanofficer.com ou vous pouvez venir me trouver Facebook, Instagram, Twitter. Il y a toujours des trucs nouveaux, des nouvelles.
Vas-tu tranquillement ajouter des nouvelles pièces aussitôt qu'il y en aura à la tournée ou tu fais pas ça généralement?
Oui, on va sûrement faire ça. Oui.
Est-ce que c'est parfait pour tester, en même temps, pour voir si la direction qu'on prend pour un prochain album est bien lancée?
Oui, définitivement. Parce que c'est pas tant que... tu sais, il faut croire en ta propre création et tes idées. Mais quand tu le fais devant un public, on dirait que tu n'as plus tes... On dirait que tu as tes oreilles, mais tu as les oreilles de, du public aussi. Donc, c'est pas tant que tu attends de voir s'ils applaudissent plus fort ou pas, mais tu t'entends différemment parce que tu t'entends à travers les autres. Et aussi, tu le sens quand il y a quelque chose qui résonne, ça se sent. Et c'est excitant aussi quand il y a une nouvelle pièce qui n'existait pas avant et tu le fais pour des gens et que tu sens qu'il y a comme une appréciation et quelque chose de... une énergie, une belle énergie qui se passe en le faisant. Donc oui, j'ai hâte de commencer à vivre ça.
Et on est peut-être plus moins dur sur l'autocritique à ce moment-là quand on voit que... Parce qu'en création, souvent, comme tu disais tout à l'heure, des fois on aime tout, des fois on aime rien.
Ouais.
Et là, de voir que les gens aiment ça, ben, on se dit, ben, OK, j'ai peut-être été trop dur.
Oui, c'est sûr. Moi. Mais en fait, moi, j'enregistre ou je filme tous mes spectacles. Parce que c'est justement, quand on regarde ce qu'on a fait ou on écoute, c'est sûr qu'on entend des choses qu'on devrait travailler. On va dire, ah oui, ça, je devrais améliorer telle chose. Mais en grande partie, on voit des choses qu'on aurait peut-être pas valorisé assez, qu'on se rend compte que, ah oui, c'est bien de faire ça. Je devrais pas m'en empêcher parce que ça fonctionne puis ça résonne. Et oui, je pense que cette relation avec le public et cette façon de le voir par leurs yeux et leurs oreilles, effectivement, ça nous rassure, ça nous donne le courage d'aller plus loin aussi.
Jordan, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Ah, ça me fait vraiment plaisir.
J'invite les gens à se procurer ton album, Three Rivers. Merci d'avoir été là.
All right.
Merci.